Je vais vous donner la référence d'un passage biblique et j'aimerais que, à mon signal, tous ceux qui le connaissent par cœur le récitent. Alors si vous ne le connaissez pas, n'ayez pas honte, c'est vraiment pas pour essayer de trier les bons élèves des mauvais, c'est juste une expérience. D'accord ? Bon. Alors j'ai pas choisi le plus difficile, Jean 3,16. J'ai pas donné signal. Ah ben non, c'est écrit en plus. Regardez pas là-bas. Vous savez que quand on triche à un examen, on n'a plus le droit de le repasser pendant 5 ans. Hein, les bacheliers. Allez. 1, 2, 3. Bravo, il y a plein de tricheurs, il y en a plein qui avaient les yeux là-bas. Ok, mais c'est bien, d'accord. Alors pourquoi est-ce que ce verset est affiché là ? Pourquoi ? Et pourquoi il y a autant de personnes qui le connaissent par cœur ? Pourquoi celui-là ? Il y en a des milliers des versets dans la Bible, pourquoi celui-là ? C'est ça, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler le béaba de la foi chrétienne. Par amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur la croix à la place du châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. Et en acceptant Jésus comme sauveur, nous sommes au bénéfice de ce sacrifice, nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu, adoptés au sein de son peuple, et nous avons la vie éternelle. C'est le béaba. C'est un verset clé. C'est pour ça qu'il y a autant de chrétiens qui le connaissent par cœur. Mais à l'école, une fois qu'on a appris le béaba c'est l'alphabet à l'école, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, j'ai mon diplôme ? Je peux m'arrêter là, vivre tranquillement ? Ah non, une fois qu'on connaît les lettres, on peut découvrir le but de ces lettres. Et le but des lettres à l'école, c'est quoi ? Écrire, lire. Lire et écrire. Eh bien, pour la vie chrétienne, en fait, c'est pareil. Je crois en Jésus, je crois qu'il est mort par amour pour moi, pour me sauver, pour me donner la vie. Je crois ce qui est écrit dans Jean 3,16. Mais est-ce que c'est le seul but de sa venue ? Me sauver, moi. Ou bien est-ce que mon salut ne fait pas partie d'un plan beaucoup plus grand, plus vaste ? À l'école, apprendre les lettres, ça a pour but de lire et d'écrire. Eh bien, de même, me sauver, moi, n'a-t-il pas un but plus grand ? Pour le savoir, je vous invite à suivre une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 13 à 22. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Ce texte commence au verset 13 par répéter ce que nous avons dit dans l'introduction de cette prédication. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Je vous relis le verset 13. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. À l'époque de Paul, les Juifs sont considérés comme étant proches de Dieu et les non-Juifs comme étant éloignés de Dieu, de sa présence. Les non-Juifs étaient loin de Dieu à cause de la loi de Moïse qui réservait l'appartenance au peuple de Dieu aux seuls Juifs. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous a réconciliés avec Dieu, il nous a rapprochés de Dieu, nous avons accès au Seigneur car nous sommes pardonnés de nos fautes. Et le verset 14 nous explique ensuite comment il a rendu ça possible, par sa mort. Par sa mort, le salut se trouve maintenant dans la foi, non plus dans la loi de Moïse. Il faut croire en lui, c'en est donc fini de la séparation qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs. Tous peuvent faire maintenant partie du peuple de Dieu. Ça confirme en fait le béaba de la foi chrétienne, ce fameux verset Jean 3,16 qu'on a dit tous ensemble au début. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, juif comme non-juif, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais les versets 15 et suivants de notre texte vont plus loin. Ils nous dévoilent le plan de Dieu dans son intégralité. Ce plan qui va plus loin que notre simple salut personnel et individuel. Bon, être sauvé, c'est déjà pas mal. Avoir accès à la vie éternelle, comme nous le dit Jean 3,16, c'est encore mieux. Mais le plan de Dieu va plus loin. Ce que nous lisons dans le reste de notre texte, c'est que Dieu voulait nous sauver individuellement, c'est vrai, mais pas seulement. Il voyait plus loin, plus grand. Il voulait nous unir. Nous unir en un seul corps, une seule famille, un seul peuple. Son peuple. Composé de toutes les nations de la terre, de toutes les nations réconciliées entre elles, dans une paix terrestre visible, et réconciliées également avec Dieu. Voilà le grand projet de Dieu qui se cache derrière notre salut individuel. Dieu voulait en fait créer l'Église. Et je parle de l'Église, j'en parle pas comme d'une institution ou d'un bâtiment, je parle de l'Église avec un grand E, l'ensemble de tous les croyants, de tous les temps et de tous les lieux. Et là, on vient déjà, en fait, de sortir du béaba de la foi chrétienne. Mais vous imaginez bien que ça va impliquer beaucoup de choses pour nous. On parle beaucoup de ce qu'implique notre salut personnel. Une vie de disciple du Seigneur, aimer notre prochain, étudier la parole de Dieu, faire sa volonté. Mais qu'implique pour nous, nous ensemble des croyants, et plus particulièrement nous, communauté de l'Église évangélique libre de Cannes, qu'implique pour nous l'union de tous les croyants en un seul peuple, le peuple de Dieu. Alors je ne vais pas aborder cette question en retraçant toute notre vie sous tous les angles, ça prendrait quand même un peu trop de temps. On va juste s'exercer ce matin à penser notre vie selon cet enseignement, et ensuite ça sera à chacun d'entre nous et à nous aussi communautairement, ensemble, à étendre cet exercice à notre vie entière. Et cet exercice, ce petit travail qu'on va faire ce matin, qu'on va faire ensemble, il va porter sur le seul moment que nous vivons tous ensemble dans cette communauté. Et ce moment, c'est quoi ? Le culte. Ce moment, c'est le culte, c'est ce qu'on vit maintenant. C'est le moment, le seul moment où on se rassemble tous ensemble. Et vous allez voir qu'on peut même essayer de penser le moment de culte finalement de deux manières différentes. On peut le penser d'un côté à la manière d'un croyant sauvé individuellement, mais qui s'arrêterait à ce béaba. Ou on peut le penser d'une autre manière, à la manière d'un groupe de croyants qui se savent non seulement sauvés individuellement, mais également unis par le sacrifice du Christ. Alors, voilà l'exercice qu'on va faire pour le reste de cette prédication. Je ne sais pas si pour le moment vous avez bien cerné de quoi il retourne, mais vous allez voir. On va commencer tout de suite. Par quoi commence notre réunion dominicale, notre rassemblement du dimanche? Ça commence par quoi? Avant la louange. Avant même l'accueil. Avant même les salutations. Avant même la répétition du musicien, avant même de se dire bonjour, avant même de se voir, ça commence par quoi? Venir. Ça commence par venir. Ça commence par venir à l'église le dimanche matin. Si on n'y vient pas, il n'y a pas de rassemblement. Alors si je m'arrête au béaba de la foi, Jésus mort pour moi, mon salut, ma foi, mon Jésus, ben, j'ai pas besoin de venir au culte. Parce que finalement, j'ai pas besoin de frères et de sœurs en Christ. Je peux très bien être disciple du Seigneur, tout seul. Faire du bien autour de moi, donner de l'amour, de la paix, évangéliser, annoncer la parole de Dieu, lire ma Bible, chanter des cantiques. Je peux très bien faire ça tout seul, sans avoir à me mélanger à d'autres chrétiens. Mais si je vais plus loin que le béaba, si j'ai compris que le but de la venue du Christ ne s'arrête pas qu'à mon petit salut personnel, même s'il est déjà important, mais que cela va plus loin, que le Christ est venu s'acheter un peuple, un corps dont il est le chef, alors je comprends que la volonté de Dieu pour moi, c'est que j'ai des frères et des sœurs avec qui je dois vivre une vie fraternelle, une vie de partage, une vie d'adoration, de louange et d'œuvres bonnes. Nous nous rassemblons le dimanche matin parce que le Christ nous a unis par sa mort et qu'il nous demande de vivre cette unité et d'en prendre soin. C'est pour ça qu'on se rassemble. Ça y est, vous voyez où je veux en venir un peu dans cet exercice? Bon, ça c'était facile, c'était pour s'échauffer. Maintenant, vous voyez un peu la démarche. On cherche en fait ce qu'entraîne notre unité en Christ jusque dans le moment de culte que nous partageons. Et après, chacun pourra réfléchir ensuite, et on pourra le faire en communauté, à ce que ça implique dans une vie entière. Maintenant, plus dur. Une fois qu'on est arrivé le dimanche matin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Se salue. On se salue, on s'accueille mutuellement. Enfin ça dépend de l'heure à laquelle on arrive. Mais imaginons un instant que nous arrivions, j'ose, allez à 10h20, soyons fous. Je sais, je rêve, je délire, mais imaginons, nous sommes tous là à 10h20, le culte ne commence que dans 10 minutes. Si je m'arrête au béaba de la foi, mon salut, ma foi, mon Jésus, j'ai pas besoin de saluer mes frères et sœurs. Déjà, j'avais même pas besoin de venir. Mais je suis venu, bon, disons peut-être par tradition, ou parce que j'aime bien voir les gens, peut-être pour la musique, ou parce que ça me fait du bien, peut-être. Bref, je suis venu, mais j'en avais pas besoin pour ma vie chrétienne. Je peux donc aller tranquillement m'asseoir, même si je suis arrivé en avance, je vais me mettre en condition, parce que je suis venu rendre un culte personnel à Dieu, je peux m'installer. Sans rien dire, me mettre à prier, me préparer à louer mon Dieu. Mais si je vais plus loin que le béaba, si j'ai compris que le Christ est venu s'acheter un peuple qui l'a uni et qui doit vivre cette unité, lorsque j'arrive, que je vois mon frère, ma sœur, je me réjouis de me retrouver à nouveau avec eux, parce que je sais le prix qui a été payé pour que nous soyons membres de la même famille, pour que nous soyons capables, pour que nous puissions nous réunir comme nous le faisons. Je les salue, je prends de leurs nouvelles, je donne des miennes, je me réjouis avec celui qui a de bonnes nouvelles, je compatis avec celui qui est dans l'épreuve, je partage mes propres joies et mes propres difficultés. Je viens pas forcément rentrer dans une bonne disposition pour rendre mon culte à Dieu. Non, je veux savoir si nous sommes dans de bonnes dispositions pour que nous rendions ensemble notre culte à Dieu. Je sais que beaucoup aiment avoir un temps de silence pour pouvoir se recentrer sur Dieu avant le culte. Parce que c'est pas naturel de laisser de côté ses soucis pour se tourner vers Dieu, je le comprends. Mais on n'est pas obligé de vivre ça tout seul. Suivant les caractères, certains en auront besoin, il faut pouvoir le respecter également. Il faut pouvoir rester bienveillant à ce niveau-là. Je suis pas en train de stigmatiser des personnes. Je force un peu le trait, je l'avoue, mais je veux pas stigmatiser des personnes. Il faut pouvoir l'accepter aussi. Mais on n'est pas obligé de vivre ça tout seul. C'est aussi en se témoignant de l'amour et de la joie mutuellement qu'on peut apaiser les craintes, les douleurs des uns et des autres. Qu'on peut se les apaiser entre nous. On peut aider notre frère ou notre sœur en Christ à déposer ses fardeaux pour qu'ils puissent rentrer dans la louange de notre Dieu. Et eux peuvent m'aider à déposer les miens dans cette relation pour vivre finalement un culte mutuel, ensemble, envers notre Dieu. Je vous l'ai dit, j'en fais pas un absolu, loin de là. Suivant notre vécu ou notre personnalité, on va avoir besoin de calme pour se tourner vers Dieu. Mais il me semble que cette préparation ensemble à rentrer dans le moment de culte demeure important, je pense. Ensuite, nous sommes arrivés à 10h20, je vous le rappelle. Enfin, à partir de dimanche prochain, dans ce cas-là, ça serait 9h50, parce que le culte durant l'été commence à 10h. Donc on va dire, à partir de la semaine prochaine, qu'on est arrivé à 9h50, que le culte commence à 10h, nous nous sommes salués, nous sommes installés, nous sommes tous là, le culte commence, et maintenant, quelle est la prochaine étape? On fait quoi? Quoi? L'introduction, c'est-à-dire la louange, louer notre Dieu, un moment de louange et d'adoration. Alors si je m'arrête, toujours pareil, dans notre exercice, au béaba de la foi, mon salut, ma foi, mon Jésus, je viens, comme nous l'avons déjà dit, donner ma louange. Et je veux pouvoir lui donner une louange de qualité. Enfin, selon mes critères. Et là, je risque d'avoir des problèmes. La musique me plaît pas, les cantiques sont trop récents, ou ils sont trop vieux. Le président de culte a pas assez structuré sa présidence, il est un peu trop brouillon. Hein. Ou au contraire, il a été trop carré, trop liturgique. J'ai pas aimé. Puis la personne à côté de moi, pendant les chants, elle suit pas le rythme. Elle chante pas très bien, faut dire. Elle lève les mains au ciel pendant qu'elle chante, alors moi je fais pas ça. Et puis le groupe de louanges, il démarre pas au bon moment. Et puis c'est quoi cette adaptation du chant? Moi j'ai pas l'habitude de le chanter comme ça, je préfère autrement. Tout ça me dérange, ça peut me déranger, et j'arrive pas à être pleinement investi dans la louange que je veux offrir à Dieu. Je suis pas à fond dedans, ça me va pas. Je suis frustré, je suis aigri, je peux même en vouloir aux autres, à certains qui se sont peut-être ligués pour me pourrir ce moment. Je vous l'ai dit, je force un peu le trait. tout petit peu. Mais si je vais plus loin que le béaba. Si j'ai compris que le Christ est venu s'acheter un peuple qui l'a uni et qui doit vivre cette unité, je veux que mes frères et sœurs et moi-même, je m'oublie pas non plus, c'est pas le but, nous offrions notre louange à Dieu. Une louange commune. Je comprends que nos louanges ne sont pas un ensemble de petites bougies isolées qui seraient allumées ici dans cette salle, juste mises les unes à côté des autres, mais je comprends que tous ensemble, notre louange, c'est comme un grand feu, un grand brasier, une immense flamme commune que nous voulons offrir à notre Dieu. Et là, peu importe les imperfections, peu importe nos différences, on n'a pas les mêmes goûts en matière de musique, de cantique, de liturgie, de moins liturgique, de participation, de silence, de prière libre ou pas. Peu importe nos différences ou la musique qui ne me plaît pas toujours, je m'associe pleinement à la louange avec mes frères et sœurs. Je sors un peu de ma bulle pour m'associer à la louange commune, parce que j'ai conscience que ceux qui sont avec moi sont venus dans le même but, louer notre Dieu. Nous avons été sauvés ensemble en Christ, et unis en un peuple dirigé par un même roi. Et c'est à ce roi que le peuple vient rendre hommage. Ensuite, nous avons offert notre louange à Dieu par des chants, des prières ou autres, Et maintenant, que se passe-t-il ? Après la louange, il se passe quoi ? Ouais, la prière, je le mets dans la louange. Prédication, l'enseignement. L'enseignement, la prédication. Alors là aussi, pareil, si je m'arrête au béaba de la foi, on continue notre exercice, hein. Mon salut, ma foi, mon Jésus, et je rajouterai ici ma Bible. Eh bien, je viens recevoir un enseignement pour moi. Et je l'espère dans ma version, ma traduction que j'apprécie et que j'ai entre les mains, et pas dans une autre que je trouverais étrange. Je lis également, en fait, les textes bibliques comme s'ils m'étaient adressés à moi seul. Tout pointe vers moi, c'est ma vie qui doit être édifiée par l'enseignement qui est donné. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Je viens pour apprendre comment bien vivre ma vie, ce qui est pas mauvais en soi. Nous devons apprendre à vivre une vie de disciple, hein, dans notre situation particulière, dans notre vie individuelle, dans notre individualité avec nos particularités. Mais ne penser que comme ça, c'est quand même restreindre à la vie chrétienne à moi seul. Alors que si je vais plus loin que le béaba, si j'ai compris que le Christ est venu s'acheter un peuple qu'il a uni et qui doit vivre cette unité, je veux être enseigné pour apprendre à vivre, non pas uniquement en tant que chrétien individuel, mais en tant que membre du peuple de Dieu, membre de ce peuple, pas en chrétien isolé. Alors bien sûr, on vit pas entre nous tous ensemble toute la semaine, on continue, et même lorsque nous nous rassemblons, on sait qu'on n'est qu'une fraction du peuple de Dieu, qu'un petit morceau. Mais même dans mon quotidien, si j'ai conscience que le but du Christ était de se créer un peuple, eh bien je veux agir dans une vision commune à tout ce peuple, dans un même but, dans une même direction. Et cette direction, c'est la Bible qui nous l'enseigne, notamment à apporter l'évangile au monde par nos paroles, par nos prières et par nos actes d'amour. Et durant la prédication, nous sommes enseignés tous ensemble de la même manière, pour pouvoir agir ensuite, peut-être séparément, parfois en commun, mais toujours dans un même but. Et ensuite, après avoir reçu l'enseignement, après la prédication, qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? Il y a un truc qu'on fait un dimanche sur deux, la Sainte-Cène. La Sainte-Cène. On ne fait pas tous les dimanches. Mais nous partageons la scène, premier et troisième dimanche du mois, on le fait. Nous partageons la scène, même si aujourd'hui on l'aura pas. Enfin, je dis lorsque nous partageons la scène, je donne déjà la réponse, parce que toujours dans notre petit exercice, si je m'arrête au béaba de la foi, mon salut, ma foi, mon Jésus, je vais pas partager la scène, je vais prendre la scène. C'est pas pareil. Je vais faire une rapide introspection. Je vais repenser à ma semaine, je vais voir si j'ai globalement été bon cette semaine. Je vais me rassurer et me dire ça va cette semaine, c'est bien, elle s'est bien passée, je peux prendre la scène. Et pourtant dans la scène, tout est réuni pour me montrer de manière claire que je ne suis qu'un membre du corps. Durant la scène, on rompt le pain, le corps entier, et on en prend chacun qu'un morceau, le morceau que nous sommes. Parce que Christ a donné son corps pour que nous ne formions qu'un seul corps. Et si je vais plus loin que le béaba, si j'ai compris que le Christ est venu s'acheter un peuple qui l'a uni et qui doit vivre cette unité, c'est pas uniquement ma vie personnelle que je vais examiner avant de partager la scène. Mais c'est ma façon de vivre en tant que membre du corps du Christ, membre de son peuple. Il y a dans la scène une dominante communautaire très forte. Nous partageons la scène. Et chaque fois que l'apôtre Paul, dans la Bible, fait des reproches à une église concernant le moment de la scène, c'est toujours pour la même raison. C'est parce qu'ils ne vivent plus ce moment dans une parfaite communion. En commun, ensemble. Ils discernent plus ce qui est le corps du Seigneur. Vous connaissez peut-être ce texte, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mais qu'est-ce qui est le corps du Seigneur ? C'est son peuple, c'est son Église, c'est nous. Si on prend la scène sans discerner ça, sans en prendre soin, sans y faire attention, on a tout faux. Et ensuite, après avoir partagé la scène, qu'est-ce qu'on fait habituellement, ici, dans cette communauté, pour les habituer ? La collecte, l'offrande et les annonces. Je vais coupler les deux. Je réunis les deux parce qu'ils sont tellement liés que généralement on les vit même en même temps. Ils sont liés parce que si les annonces parlent de notre action d'église communautaire, c'est bien l'offrande qui souvent rend possible cette action. Cette action qui parfois nécessite des fonds. Donc l'offrande et les annonces, si je m'arrête au béaba de la foi, mon salut, ma foi, mon Jésus, les annonces vont juste signifier que le culte est bientôt fini et que l'apéro n'est pas loin. Peu importe la vie communautaire, vu que j'en ai pas besoin. Alors je vais pas commencer à m'y intéresser, encore moins à m'y impliquer. Mais si je vais plus loin que le béaba, si j'ai compris, toujours pareil, c'est le refrain de ma prédication, vous l'aurez compris, si j'ai compris que le Christ est venu s'acheter un peuple qu'il a uni et qui doit vivre cette unité, eh bien alors pour moi les annonces seront un des centres de notre vie communautaire. C'est le moment où nous pouvons partager, échanger des nouvelles tous ensemble. Nous pouvons le faire individuellement, en dehors du culte, dans la semaine. On peut se rendre visite, se téléphoner, échanger, prendre des nouvelles, se donner des informations. Mais pendant les annonces du dimanche matin, nous sommes tous ensemble, à l'écoute, tous réunis. Nous parlons aussi bien de nos grands projets d'église que des joies ou des épreuves de chacun qu'on peut se témoigner pendant ces moments. Nous prenons alors les annonces au sérieux. On ne veut pas que ça soit qu'un signal de la fin bâclé en 2 minutes. Non, c'est un moment communautaire, fort. C'est là où nous pouvons échanger tous ensemble sur ce que nous allons partager dans la semaine et les temps à venir. Bon, je vais arrêter de vous embêter avec cet exercice, je vais aller un peu plus vite. Pour la prière d'intercession à la fin du culte, c'est encore plus flagrant. Parce que c'est une prière dans laquelle on ne dit jamais « Je prie, Seigneur, je te prie ». Non, on dit « Seigneur, nous te prions ». Une seule personne dit cette prière, mais toute la communauté s'y associe. Et pour le chant de fin de culte, ce chant de bénédiction, c'est la même chose. Je peux chanter pour moi, pour me bénir. Bénir ma vie, bénir ma semaine, alors que ces chants, vous le remarquerez, ne sont jamais à la première personne du singulier, je. Au contraire, c'est une bénédiction que nous voulons nous donner les uns aux autres dans la reconnaissance du corps que nous formons. Vous imaginez ce que je vais dire pour la sortie du culte, la même chose au final que pour le début, avec le béaba de la foi, on peut paisiblement ne pas se préoccuper de nos frères et sœurs en Christ, mais en allant plus loin dans le plan de Dieu, on y voit un moment particulier de partage, d'échange et de convivialité. Même si parfois une circonstance peut nous obliger à partir vite, ça arrive, faut pas culpabiliser pour ça. Mais on y voit un moment de partage, d'échange et de convivialité. Aller plus loin que le béaba dans la vie chrétienne, dans la vie communautaire, dans la vie d'église, ça impliquerait beaucoup d'autres choses. On pourrait parler de la prière régulière les uns pour les autres, de l'échange des nouvelles, de l'échange, non pas contre nous même, avec des églises voisines, si on a conscience qu'on n'est qu'un morceau du corps, dans notre ville, dans notre pays, dans le reste du monde. Et cela chacun avec nos disponibilités, sans délaisser nos vies personnelles, notre famille, notre travail, nos relations, le témoignage, l'étude de la Bible. En fait, c'est un équilibre de vie. C'est ce que je veux vous montrer par cet exercice. C'est un équilibre de vie à chercher constamment. Et maintenant, c'est à chacun d'entre nous d'aller plus loin que le béaba de la foi. Gardez Jean 3,16 comme socle. C'est bien si vous le connaissez par cœur, c'est très bien. Mais il faut nous ouvrir à toute la grandeur du plan de Dieu, qui est de créer un seul peuple par l'unification de toutes les nations en une grande famille. Et je terminerai juste par ces quelques paroles de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, continuons à marcher ensemble dans la même direction. À nous de décider si nous voulons, chacun et en communauté, rester des enfants spirituellement et dans la foi, ou devenir des adultes spirituellement qui continuent à marcher ensemble dans la même direction. Amen.